Welcome.
It don't mean a thing if it ain't got that swing.
L'épopée des musiques noires.
Joe Farmer, Nathalie Laporte.
Fellas, I'm ready to get up and do my thing.
Jigida, kani jigi misenya, omanyi, kobena.
It's okay. You know, it's okay.
Ces premières notes de piano virtuose vous indiquent que nous allons cette semaine nous plonger au cœur du jazz afro-américain grâce à la maestria d'un personnage discret qui depuis 50 ans peaufine son art et inscrit sa musicalité dans la grande tradition des légendes d'antan. Né le 9 juin 1943 à Philadelphie aux États-Unis, Kenny Barron, c'est son nom, a donc 73 ans et porte en lui le message de ses aînés et de ses contemporains. Nous avons eu le privilège de rencontrer ce brillant instrumentiste lors de son passage au festival Jazz en Tête à Clermont-Ferrand, dans le centre de la France. Sa prestation a ému le public, mais aussi les organisateurs du concert, dont Xavier Felgerol, le directeur artistique du festival, qui ne tarit pas d'éloges à son sujet.
Kenny Barron a 73 ans, c'est un jazz messenger, c'est sa façon. Et bon, quand il joue avec Ben Reilly, le batteur Ben Reilly, c'est le dernier batteur de Monk. Et on sait que l'influence que Thelonious Monk a dans le jeu de Kenny Barron. Et donc Kenny Barron, il a beaucoup joué avec le saxophoniste Stan Getz. Ben, il nous passe ses histoires. C'est-à-dire qu'à son tour, il a absorbé tout ce que les trompettistes Dizzy Gillespie, le saxophoniste Stan Getz et tellement d'autres ont apporté. Et puis il le retransmet à sa façon. Donc en fait, c'est la transmission. Kenny Barron, pour moi, c'est un modèle de transmission du répertoire du jazz et de l'état d'esprit du jazz. J'ai eu cette chance formidable de le rencontrer il y a très longtemps. Il était déjà venu au festival avec Ben Reilly, le batteur Ben Reilly, le dernier batteur de Monk, le saxophoniste Gary Bartz et le contrebassiste Ray Drobone. Et ils ont même accepté que je sorte un live du festival, donc il y a une vingtaine d'années. Et puis il est revenu en solo piano, et puis j'ai été road manager de beaucoup de musiciens avec lesquels il a bossé. Puis j'ai toujours eu une admiration sans borne pour son style et puis pour le type vraiment attachant. Et voilà, et donc c'est difficile à expliquer, c'est les affinités, on ne choisit pas toujours, mais j'aime beaucoup Kenny Barron.
Vous l'aurez compris, accueillir Kenny Barron dans un festival est un événement, tant sa place dans l'épopée des musiques noires est déterminante. Pour vous en convaincre, écoutez les propos du jeune pianiste Keith Brown. Il n'a que 33 ans et ne cachait pas son admiration et son émerveillement après avoir assisté à la prestation de son idole et mentor, Kenny Barron.
Oh man, it was an absolute
treat to actually get to see pianist Kenny Barron.
Honnêtement, ce fut un réel bonheur de voir le pianiste Kenny Barron sur scène hier soir. Je suis l'un de ses grands admirateurs et j'écoute ses disques depuis des années. J'ai appris par cœur tous ses solos, je connais très bien sa discographie. Et avoir le privilège de le rencontrer par hasard alors que je me promenais dans le hall de l'hôtel est une chance exceptionnelle. Je ne parle que de lui, mais il ne faut pas oublier ses musiciens. Ils forment un trio de grande qualité. Ce fut une leçon pour moi de regarder ces brillants musiciens.
His whole trio, just the way the music is put together and they play with each other, it's just a very good lesson just watching it. Kenny's Barron's playing is just so, I guess it has so much range to it, you know, it's like...
Le jeu de Kenny Barron est tellement riche, il peut être très subtil et quelques secondes plus tard très puissant et imposant. Il y a une dynamique dans son jeu qui le rend très versatile dans le bon sens du terme. Tous les pianistes de ma génération s'inspirent des aînés et je m'inspire pour ma part de Kenny Barron. En fonction de ce que vous recherchez, vous pouvez vous intéresser à une composition ou au jeu purement pianistique d'un virtuose. Hier soir, Kenny Barron a interprété une de ses compositions qui m'a assis sur place. Je n'écoutais même plus son jeu, je me concentrais uniquement sur la qualité de la mélodie et des harmonies. J'étais là, face à lui, à l'observer et je me laissais porter par la fluidité de son répertoire. On apprend tellement à l'écoute de ces grands personnages. J'ai également été épaté par l'homogénéité de ce trio. Kenny Barron est véritablement une inspiration pour moi, dont je dois tirer les enseignements. Avant d'écouter Kenny Barron lui-même nous conter son épopée, il me faut vous décrire l'ambiance dans laquelle les musiciens se croisent dans un festival comme Jazz en Tête. Pour le confort de tous, les organisateurs ont choisi de loger les différents acteurs de cet événement culturel majeur de l'automne dans le même hôtel. Ainsi, journalistes, photographes et artistes se côtoient avec respect et simplicité. Le soir, après les concerts, une jam session animée par d'excellents musiciens locaux se tient dans le hall de l'hôtel où curieux, résidents et jazzmen dialogue avec enthousiasme. Le jeune Keith Brown eut ainsi l'opportunité d'échanger avec son héros, Kenny Barron, accoudé tranquillement au bar de l'hôtel.
I guess the great thing about getting to be around, you know, some of those legends like Kenny Barron is that.
Ce qui est fascinant lorsque l'on croise de telles légendes, c'est qu'on a le sentiment de redevenir un fan. Rendez-vous compte, j'étais hier en pleine conversation avec l'immense Kenny Barron. Cependant, au fil de notre discussion, j'ai eu l'impression qu'il ne voulait pas être perçu comme une personnalité d'envergure. Si j'avais plutôt tendance à le considérer comme l'un de mes héros, il est tout de même le grand Kenny Barron, et ce statut est tout à fait légitime à mes yeux. Lui voulait converser de pianiste à pianiste. Il n'attache aucune importance à l'image qu'on donne de lui. J'ai rencontré d'autres grands personnages de l'histoire du jazz ces derniers temps, et je suis chaque fois surpris par l'humilité de ces grands virtuoses. Ils ne veulent pas jouer les stars, mais ils le sont à mes yeux. Prendre une photo avec Kenny Barron pourrait en effet être perçu comme un réflexe de groupie, mais il s'agit seulement d'immortaliser un moment privilégié avec un de vos aînés que vous chérissez depuis longtemps. Finalement, c'est une manière d'entrer dans une famille de musiciens. Le simple fait d'avoir partagé l'affiche d'un festival avec Kenny Barron, puis de me retrouver à discuter avec Christian McBride, donne du sens à toutes ces émotions que je viens de vous exprimer.
Thank you.
Il est temps maintenant d'écouter le témoignage du célèbre Kenny Barron, qui en toute humilité et décontraction nous a narré quelques-unes de ses aventures dans l'univers du jazz. Inutile de vous dire qu'en 50 ans de carrière, les souvenirs sont nombreux, parfois douloureux, souvent merveilleux ou aventureux. Kenny Barron a eu le bonheur, par exemple, de partager la scène avec les pionniers du jazz, dont le fameux trompettiste et chef d'orchestre Dizzy Gillespie.
We played Brazilian music and bossa novas. That was the first time I played that stuff.
Nous jouions ensemble de la musique brésilienne, de la bossa nova, de la musique caribéenne, car il aimait profondément ces cultures afro-latines. Et finalement, il m'a transmis le virus. Je suis désormais un grand fan de toutes ces musiques latino-américaines. Un peu plus tard, à San Francisco, avec mon ami Youssef Latif, j'ai découvert Brazil 65 de Sergio Mendes, et j'ai trouvé ça formidable. J'ai donc voulu en savoir plus sur ce patrimoine que je connaissais peu finalement. J'ai découvert la samba et lorsque je me suis installé à Brooklyn, j'ai été très influencé par la communauté caribéenne de ce quartier de New York. J'entendais dans mon voisinage les œuvres des plus grands artistes afro-latins. Et d'ailleurs, l'un de mes tout premiers concerts a eu lieu avec un orchestre issu des Caraïbes. Désormais, à chacun de mes concerts, je distille quelques accents latins dans mon jazz américain.
Every time I play, I infuse some of that somewhere, you know.
Kenny Barron a 20 ans lorsqu'il entre dans l'orchestre de Dizzy Gillespie. Nous sommes au cœur des années 60, à une époque où le mouvement des droits civiques aux États-Unis tente de contrer les assauts répétés des Américains blancs racistes contre la communauté noire. Kenny Barron se souvient des difficultés rencontrées par les musiciens afro-américains pour jouer et se déplacer dans les États du Sud.
My first trip to New Orleans, for instance, was with Dizzy.
Lorsque je me suis rendu à la Nouvelle-Orléans pour la première fois, j'étais dans l'orchestre de Dizzy Gillespie. Nous jouions dans un des fameux clubs de New Orleans, qui était l'un des rares à l'époque à accepter des musiciens de toute culture. En dehors de cet établissement, il était impossible pour des musiciens noirs de se produire à la Nouvelle-Orléans. Et oui, sur Bourbon Street, en 1963, dans la capitale du jazz, la ségrégation était encore très vivace. Et cela ne me paraît pas si lointain. Une autre fois, toujours avec Dizzy Gillespie, nous jouions à Baltimore. Notre batteur prit la décision d'aller boire un verre dans un café en face de la salle de spectacle. Le barman n'a jamais voulu le servir parce qu'il était noir. Et dire que cela a eu lieu il y a seulement 50 ans, ce n'est pas si vieux. Certes, je n'ai pas connu le racisme aussi violemment que mes aînés, mais tous ces petits incidents m'interrogeaient sur notre vie quotidienne en tant qu'afro-américain. Bizarrement, j'ai conservé en moi ce sentiment de ne pas être toujours le bienvenu dans certaines régions des États-Unis. En entrant dans certains restaurants ou dans certains magasins, vous ressentez un malaise. Mais heureusement pour moi, j'ai échappé au pire de la ségrégation raciale.
But basically, you know, like I said, I escaped a lot of it.
En faisant paraître l'album Swamp Sally en 1996 en compagnie du percussionniste martiniquais Mino Sinelu, Kenny Barron faisait à nouveau appel à ses souvenirs lorsque les échanges interculturels n'étaient pas encore tolérés dans une Amérique alors très conservatrice. Ce disque fut donc une expérience à la fois mémorielle et sensorielle pour Kenny Barron, qui garde un vrai attachement pour ce projet audacieux réalisé il y a 20 ans.
I met Mino, he was with Miles Davis. I was with a group called Sphere.
J'ai rencontré Mino Sinelu alors qu'il jouait avec Miles Davis. De mon côté, je dirigeais un groupe intitulé Sphere, en hommage à Thelonious Monk. C'est à Nice, dans le sud de la France, que nous avons fait connaissance. Je lui ai dit combien j'aimais son travail et nous nous sommes recroisés plusieurs fois au hasard des tournées. Par ailleurs, il s'est trouvé qu'il vivait à quelques pâtés de maison de chez moi, à Brooklyn. Nous avons donc lié amitié. Je venais régulièrement chez lui et son épouse, d'alors, qui était d'origine algérienne, nous préparait des repas traditionnels succulents, arrosés de bonnes bouteilles de vin. Et en discutant de musique et d'autres choses, nous avons fini par envisager d'enregistrer un disque ensemble. Et notre rêve est devenu réalité en 1996.
Well, first of all, it was unusual for me.
Tout d'abord, il s'agissait d'un projet très particulier pour moi, car il faisait appel à des procédés électroniques que je ne maîtrisais pas. C'est d'ailleurs Mino Sinelu qui a assuré la production de ce disque. Nous avons d'ailleurs travaillé énormément en amont chez lui, dans son salon, où nous avons enregistré toutes les ornementations créées par ordinateur. Par contre, c'est en studio que les sessions acoustiques ont été réalisées. J'ai découvert que Mino était un artiste très créatif, et ce fut très plaisant de collaborer avec lui. Je n'avais jamais concocté un album de cette manière. Mino m'avait également demandé de jouer de la basse pour le titre Swamp Sally, chose que je n'avais jamais faite auparavant. Ce fut un vrai plaisir de concevoir ce répertoire. Malheureusement, nous n'avons donné que peu de concerts pour promouvoir ce disque. En dehors d'une prestation au Festival Jazz de la Villette à Paris, nous n'avons pas beaucoup joué ensemble. Je crois me souvenir que nous avons participé à un festival en Martinique, mais au-delà de ça, il n'y eut pas beaucoup d'opportunités pour faire connaître notre travail commun. J'espère qu'à l'avenir, nous aurons d'autres occasions de nous retrouver sur scène.
You know, but not as many as we would have liked, you know. So hopefully we'll get the chance to work again some more.
Lorsque l'on écoute ce dialogue inventif entre le percussionniste Mino Sinelu et le pianiste Kenny Barron, la matrice africaine du jazz jaillit presque instantanément. Mais une fois de plus, il serait injuste de réduire l'épopée de Kenny Barron à la seule influence du peuple noir. Au fil de ses nombreux voyages, Kenny Barron s'est nourri de sonorités diverses provenant de sources très différentes. La musique classique européenne, comme le swing des premières fanfares du début du XXe siècle ou la bossa nova. Il se fait donc le porte-parole au piano de toutes ces cultures qui ont dessiné les contours de son univers musical. J'ai commencé ma carrière en écoutant du jazz traditionnel. Il est donc de mon devoir de transmettre aux générations futures mes connaissances et de perpétuer cette tradition. Cela dit, je suis un peu plus jeune que les pionniers du genre. J'ai donc écouté beaucoup d'autres choses durant ma vie. Je suis ouvert à des sonorités très variées. C'est à moi de rendre harmonieuses toutes ces influences. Je suis tout à fait capable de jouer swing tout en m'amusant à sortir du cadre strict du jazz. Prendre des risques est une exigence. Pour moi, l'exemple type d'un musicien aventureux est le saxophoniste Wayne Shorter. Il est capable de swinger, mais son esprit lui permet de tenter des expériences. Il faut que je m'inspire davantage de cette attitude. Si les jeunes pianistes d'aujourd'hui s'inspirent du jeu de Kenny Barron, lui-même a eu de nombreux modèles ou mentors. Ahmad Jamal, Thelonious Monk ou Tommy Flanagan sont ses héros. Des musiciens qui l'ont précédé et l'ont guidé indirectement dans l'histoire du jazz. Une histoire qui parfois fut plus émouvante que la simple relecture d'un répertoire. Comme ces trois jours de mars 1991, où il eut le privilège de partager la scène à Copenhague avec un immense saxophoniste originaire comme lui de Philadelphie, un certain Stan Getz. Nous n'étions pas des amis proches. Certes, je l'admirais, mais nous ne passions pas beaucoup de temps ensemble, en dehors des tournées, évidemment. J'avais eu des échos plutôt négatifs à propos de Stan Getz. On me disait qu'il abusait de certaines drogues, qu'il buvait beaucoup. Mais lorsque je l'ai rencontré et que j'ai commencé à travailler avec lui, je me suis rendu compte qu'il avait abandonné tous ses travers et ses dérives. Pour moi, il était un partenaire tout à fait convenable et acceptable. Nous avons réussi à nous entendre grâce à notre amour sincère pour la musique. Le lyrisme du jazz nous rapprochait. Stan était capable de vous faire pleurer lorsqu'il jouait une ballade. Il avait une tonalité au saxophone absolument renversante. Que de souvenirs. Nous devions enregistrer en public dans un club de Copenhague durant 3 soirs. Malheureusement, le 3e soir, je l'ai trouvé fatigué, incapable de livrer une prestation digne et honorable. Son cancer du foie commençait à le ronger et j'ai dû pallier à ses carences sur scène. J'assurais la majorité des solos car il avait beaucoup de mal à donner le meilleur de lui-même. Nous avons donné ensuite un concert à Paris et là encore, il n'était pas en mesure d'assurer une prestation pleine et entière. C'est malheureusement le dernier concert que nous avons donné ensemble et la dernière fois que je l'ai vu. J'ai dû l'appeler un mois plus tard, en avril 1991, pour prendre de ses nouvelles et il semblait un peu plus en forme et envisageait même de reprendre la route. Malheureusement, il nous a quittés 2 mois plus tard, en juin 1991. Après un demi-siècle de mélodieuses harmonies lyriques, Kenny Barron est resté un homme simple dont la bienveillante nonchalance a conquis des milliers de musiciens et de spectateurs à travers la planète. Moult fois salué par des récompenses honorifiques comme le prix Miles Davis qui lui a été remis en juillet 2016 à Montréal, il tient à minimiser ses manifestations de gratitude qui ne doivent pas entacher sa modestie et le sens de son engagement artistique.
It is important. I mean, it's not going to bring me any more work.
C'est important, même si cela ne me fera pas jouer davantage. Disons que cela valide notre place dans l'histoire. Tous les artistes sont sensibles à cela. D'une certaine manière, la profession reconnaît que vous avez une réelle valeur artistique. Ce n'est donc pas anodin. Par contre, je me souviendrai longtemps du poids de cette statue que je n'ai même pas pu emmener avec moi à Brooklyn, tant elle était lourde. Ce sont les organisateurs qui me l'ont finalement envoyée à la maison. Elle pesait une tonne. Ces quelques mesures de Shuffle Boyle empruntées à Thelonious Monk sont extraites de Book of Intuition, le dernier album de Kenny Barron, paru sur le label Impulse, distribué par Universal et qui a enthousiasmé le public du festival Jazz en Tête où nous avons réalisé ce reportage.
Kenny Barron, je l'avais déjà vu moi en 94 quand il était venu, c'est un génial pianiste, vraiment. Il fait passer beaucoup les émotions. Il a un petit peu Duke Ellington, un petit peu.
De toute façon, c'est un pianiste avec une telle sensibilité, on ne peut pas rester indifférent, vraiment. Il est si mélodieux. Enfin, c'est quelqu'un de... Il n'a pas besoin de faire des tonnes de notes, en fait.
Merveilleux. On était sur un petit nuage. Il est très léger et on le suit assez facilement. Dès les premières notes, on est transporté et on redescend tout doucement au fur et à mesure à chaque morceau. Et il nous remporte à chaque fois. C'était magnifique.
Si ce portrait du pianiste Kenny Barron vous a intéressé, je vous informe que vous le retrouverez à la Philharmonie de Paris le 15 janvier 2017 lors d'une soirée qui présentera la jeune génération de jazzmen et que Kenny Barron se fera un plaisir d'accompagner. Vous le retrouverez également sur le dernier disque du trompettiste Bill Mobley, paru récemment chez Space Time Records et produit par Xavier Felgerol, qui n'est autre que le directeur artistique du festival Jazz en Tête, où nous avons rencontré Kenny Barron et dont la 30e édition aura lieu en octobre 2017. Nous en parlerons en temps utile. Quelques rendez-vous à noter avant de se quitter. D'abord, le retour en France d'un impeccable chanteur dont nous vous avions présenté les œuvres l'année dernière. Il s'agit d'Alan Harris. Il sera en concert les 5 et 6 novembre au Sunside à Paris, à l'occasion de la parution de son nouvel excellent album « Nobody's Gonna Love You Better » que nous vous recommandons chaudement. Par ailleurs, le festival Jazz au fil de l'Oise au nord de Paris débute officiellement le 4 novembre avec du beau monde puisque cette 21e édition accueillera entre autres Kyle Eastwood, le fils de Clint, Lisa Simone, la fille de Nina, ou encore Yul Koltman, le fils spirituel, dirons-nous, de Nat King Cole, à qui il rendra hommage. Jazz au fil de l'Oise, c'est donc du 4 novembre au 11 décembre dans le Val d'Oise. Et je terminerai ce petit agenda express avec le festival Banlieue Tropicale, qui débute ce week-end et s'achèvera le 10 décembre avec quelques brillants représentants des cultures caraïbes, dont le pianiste Mario Canonge, qui présentera avec Blic Bassi et Adriano Tenorio la suite de l'aventure CAB, Caraïbes, Afrique, Brésil, le 10 novembre au Triton, un club des Lilas près de Paris. A noter également le concert de Thierry Fanfan et David Facker le 4 novembre, toujours au Triton. La semaine prochaine, nous évoquerons le label Motown avec Adam White, auteur d'un ouvrage imposant paru aux éditions textuelles et consacré à cette fameuse maison de disques qui révéla Stevie Wonder, les Jackson 5, Marvin Gaye, Diana Ross, Smokey Robinson et les Temptations pour ne citer que. Épopée Soul donc dans 8 jours, évidemment réalisée avec joie et ferveur par Nathalie Laporte. Passez une bonne semaine, on se retrouve dans 8 jours, dans quelques instants le journal et toutes mes excuses pour cette voix attaquée par un gros rhume. À bientôt. Mémoire d'un continent.